Voltaire, Candide ou l'optimisme. Chapitre 21. Candide et Martin approchent des côtes de France et raisonnent. On aperçut enfin les côtes de France. « Avez-vous jamais été en France, monsieur Martin ?» dit Candide. « Oui, dit Martin, j'ai parcouru plusieurs provinces. Il y en a où la moitié des habitants est folle, quelques-unes où l'on est trop rusé, d'autres où l'on est communément assez doux et assez bête, d'autres où l'on fait le bel esprit. Et dans toutes, la principale occupation est l'amour, la seconde de médire et la troisième de dire des sottises. Mais, monsieur Martin, avez-vous vu Paris ?»
Oui, j'ai vu Paris. Il tient de toutes ces espèces-là. C'est un chaos. C'est une presse dans laquelle tout le monde cherche le plaisir, et où presque personne ne le trouve, du moins à ce qu'il m'a paru. J'y ai séjourné peu. J'y fus volé en arrivant de tout ce que j'avais par des filous à la foire Saint-Germain. On me prit moi-même pour un voleur, et je fus 8 jours en prison. Après quoi, je me fis correcteur d'imprimerie pour gagner de quoi retourner à pied en Hollande. Je connus la canaille écrivante, la canaille cabalante et la canaille convulsionnaire. On dit qu'il y a des gens fort polis dans cette ville-là, je le veux croire.
Pour moi, je n'ai nulle curiosité de voir la France, dit Candide. Vous devinez aisément que quand on a passé un mois dans Eldorado, on ne se soucie plus de rien voir sur la terre que Mademoiselle Cunégonde. Je vais l'attendre à Venise, nous traversons la France pour aller en Italie. Ne m'accompagnerez-vous pas ?
Très volontiers, dit Martin. On dit que Venise n'est bonne que pour les nobles vénitiens, mais que cependant on y reçoit très bien les étrangers quand ils ont beaucoup d'argent. Je n'en ai point, vous en avez, je vous suivrai partout.
À propos, dit Candide, pensez-vous que la terre ait été originairement une mer ? Comme on l'assure dans ce gros livre qui appartient au capitaine du vaisseau.
Je n'en crois rien du tout, dit Martin, non plus que toutes les rêveries qu'on nous débite depuis quelque temps.
Mais à quelle fin ce monde a-t-il donc été formé, dit Candide.
Pour nous faire enrager, répondit Martin.
N'êtes-vous pas bien étonné, continua Candide, de l'amour que ces deux filles du pays des oreillons avaient pour ces deux singes, et dont je vous ai conté l'aventure.
Point du tout, dit Martin. Je ne vois pas ce que cette passion a d'étrange. J'ai tant vu de choses extraordinaires qu'il n'y a plus rien d'extraordinaire pour moi.
Croyez-vous, dit Candide, que les hommes se soient toujours mutuellement massacrés comme ils font aujourd'hui? Ils aient toujours été menteurs, fourbes, perfides, ingrats, brigands, faibles, volages, lâches, envieux, gourmands, ivrognes, avares, ambitieux, sanguinaires, calomniateurs, débauchés, fanatiques, hypocrites et sots.
Croyez-vous, dit Martin, que les éperviers aient toujours mangé des pigeons quand ils en ont trouvé?
Oui, sans doute, dit Candide.
Eh bien, dit Martin, si les éperviers ont toujours eu le même caractère, pourquoi voulez-vous que les hommes aient changé le leur?
Oh, dit Candide, il y a de la différence, car le libre arbitre.
En raisonnant ainsi, ils arrivèrent à Bordeaux.
Chapitre 22. Ce qui arriva en France à Candide et à Martin.
Candide ne s'arrêta dans Bordeaux qu'autant de temps qu'il en fallait pour vendre quelques cailloux du Dorado et s'accommoder d'une bonne chaise à deux places, car il ne pouvait plus se passer de son philosophe Martin. Il fut seulement très fâché de se séparer de son mouton, qu'il laissa à l'Académie des sciences de Bordeaux, laquelle proposa pour le sujet du prix de cette année de trouver pourquoi la laine de ce mouton était rouge. Et le prix fut adjugé à un savant du Nord, qui démontra par A plus B moins C divisé par Z que le mouton devait être rouge et mourir de la clavelée. Cependant, tous les voyageurs que Candide rencontra dans les cabarets de la route lui disaient « Nous allons à Paris ». Cet empressement général lui donna enfin l'envie de voir cette capitale. Ce n'était pas beaucoup se détourner du chemin de Venise. Il entra par le faubourg Saint-Marceau et crut être dans le plus vilain village de la Westphalie. À peine Candide fut-il dans son auberge, il fut attaqué d'une maladie légère causée par ses fatigues. Comme il avait au doigt un diamant énorme et qu'on avait aperçu dans son équipage une cassette prodigieusement pesante, il eut aussitôt auprès de lui deux médecins qu'il n'avait pas mandés, quelques amis intimes qui ne le quittèrent pas, et deux dévotes qui faisaient chauffer ses bouillons. Martin disait « Je me souviens d'avoir été malade aussi à Paris dans mon premier voyage. J'étais fort pauvre. Aussi n'eus-je ni amis, ni dévotes, ni médecins. Et je guéris. » Cependant, à force de médecine et de saignée, la maladie de Candide devint sérieuse. Un habitué du quartier vint avec douceur lui demander un billet, payable au porteur pour l'autre monde. Candide n'en voulut rien faire. Les dévotes l'assurèrent que c'était une nouvelle mode. Candide répondit qu'il n'était point homme à la mode. Martin voulut jeter l'habitué par les fenêtres. Le clerc jura qu'on n'enterrerait point Candide. Martin jura qu'il enterrait le clerc s'il continuait à les importuner. La querelle s'échauffa. Martin le prit par les épaules et le chassa rudement. Ce qui causa un grand scandale dont on fit un procès-verbal. Candide guérit, et pendant sa convalescence, il eut très bonne compagnie à souper chez lui. On jouait gros jeu. Candide était tout étonné que jamais les as ne lui vinssent, et Martin ne s'en étonnait pas. Parmi ceux qui lui faisaient les honneurs de la ville, il y avait un petit abbé périgourdin. L'un de ces gens empressés, toujours alertes, toujours serviables, effrontés, caressants, accommodants, qui guettent les étrangers à leur passage, leur content l'histoire scandaleuse de la ville et leur offrent des plaisirs à tout prix. Celui-ci mena d'abord Candide et Martin à la comédie. On y jouait une tragédie nouvelle. Candide se trouva placé auprès de quelques beaux esprits. Cela ne l'empêcha pas de pleurer à des scènes jouées parfaitement. Un des raisonneurs qui était à ses côtés lui dit dans un entr'acte « Vous avez grand tort de pleurer, cette actrice est fort mauvaise. L'acteur qui joue avec elle est plus mauvais acteur encore. La pièce est encore plus mauvaise que les acteurs. L'auteur ne sait pas un mot d'arabe, et cependant la scène est en Arabie. Et de plus, c'est un homme qui ne croit pas aux idées innées. Je vous apporterai demain 20 brochures contre lui. » « Monsieur, combien avez-vous de pièces de théâtre en France ?» dit Candide à l'abbé.
Lequel répondit « 5 ou 6 000 ?»«
C'est beaucoup, » dit Candide.
« Combien y en a-t-il de bonnes ?»«
15 ou 16 ?» répliqua l'autre.
« C'est beaucoup, » dit Martin.
Candide fut très content d'une actrice qui faisait la reine Élisabeth dans une assez plate tragédie que l'on joue quelquefois.
« Cette actrice, dit-il à Martin, me plaît beaucoup. Elle a un faux air de Mademoiselle Cunégonde. Je serais bien aise de la saluer. »
L'abbé Périgourdin s'offrit à l'introduire chez elle. Candide, élevé en Allemagne, demanda quelle était l'étiquette et comment on traitait en France les reines d'Angleterre.
« Il faut distinguer, dit l'abbé. En province, on les mène au cabaret.
À Paris, on les respecte quand elles sont belles, et on les jette à la voirie quand elles sont mortes. »«
Des reines à la voirie, dit Candide. » »«
Oui, vraiment, dit Martin, monsieur l'abbé a raison. J'étais à Paris quand mademoiselle Monime passa, comme on dit, de cette vie à l'autre. On lui refusa ce que ces gens-ci appellent les honneurs de la sépulture. » C'est-à-dire de pourrir avec tous les gueux du quartier dans un vilain cimetière. Elle fut enterrée toute seule de sa bande au coin de la rue de Bourgogne, ce qui dut lui faire une peine extrême, car elle pensait très noblement.
« Cela est bien impoli, dit Candide.
« Que voulez-vous, dit Martin, ces gens-ci sont ainsi faits.
Imaginez toutes les contradictions, toutes les incompatibilités possibles. Vous les verrez dans le gouvernement, dans les tribunaux, dans les églises, dans les spectacles de cette drôle de nation.
« Est-il vrai qu'on rit toujours à Paris ?» dit Candide.
Oui, dit l'abbé, mais c'est en enrageant, car on s'y plaint de tout avec de grands éclats de rire. Même on y fait en riant les actions les plus détestables.
Quel est, dit Candide, ce gros cochon qui me disait tant de mal de la pièce où j'ai tant pleuré, et des acteurs qui m'ont fait tant de plaisir?
C'est un mal vivant, répondit l'abbé, qui gagne sa vie à dire du mal de toutes les pièces et de tous les livres. Il est quiconque réussit,
comme les eunuques haïssent les jouissants. C'est un de ces serpents de la littérature qui se nourrissent de fange et de venin.
C'est un folliculaire.
Qu'appelez-vous folliculaire? Dit Candide.
C'est, dit l'abbé, un faiseur de feuilles, un fréron.
C'est ainsi que Candide, Martin et le Périgourdin raisonnaient sur l'escalier en voyant défiler le monde au sortir de la pièce.
Quoique je sois très empressé de revoir Mademoiselle Cunégonde, dit Candide, je voudrais pourtant souper avec Mademoiselle Clairon, car elle m'a paru admirable.
L'abbé n'était pas homme à approcher de Mademoiselle Clairon, qui ne voyait que bonne compagnie.
Elle est engagée pour ce soir, dit-il, mais j'aurai l'honneur de vous mener chez une dame de qualité.
Et là, vous connaîtrez Paris comme si vous y aviez été 4 ans.
Candide, qui était naturellement curieux, se laissa mener chez la dame au fond du faubourg Saint-Honoré. On y était occupé d'un pharaon. 12 tristes pontes tenaient chacun en main un petit livre de cartes, registre cornu de leurs infortunes. Un profond silence régnait, la pâleur était sur le front des pontes, l'inquiétude sur celui du banquier, et la dame du logis, assise auprès de ce banquier impitoyable, remarquait avec des yeux de lynx tous les parolis, tous les sets et le va de campagne dont chaque joueur cornait ses cartes. Elle les faisait décorner avec une attention sévère, mais polie, et ne se fâchait point de peur de perdre ses pratiques.
La dame se faisait appeler la marquise de Parolignac. Sa fille, âgée de 15 ans, était au nombre des pontes et avertissait d'un clin d'œil des friponneries de ces pauvres gens qui tâchaient de réparer les cruautés du sort. L'abbé Périgourdin, Candide et Martin entrèrent. Personne ne se leva, ni les salua, ni les regarda. Tous étaient profondément occupés de leurs cartes.
Madame la baronne de Thundertentronckh était plus civile, dit Candide.
Cependant, l'abbé s'approcha de l'oreille de la marquise, qui se leva à moitié, honora Candide d'un sourire gracieux, et Martin d'un air de tête tout à fait noble. Elle fit donner un siège et un jeu de cartes à Candide, qui perdit 50 000 francs en 2 tailles. Après quoi, on soupa très gaiement. Et tout le monde était étonné que Candide ne fût pas ému de sa perte. Les laquais disaient entre eux, dans leur langage de laquais, « Il faut que ce soit quelque milord anglais. » Le souper fut comme la plupart des soupers de Paris. D'abord du silence, ensuite un bruit de paroles qu'on ne distingue point, puis des plaisanteries dont la plupart sont insipides, de fausses nouvelles, de mauvais raisonnements, un peu de politique et beaucoup de médisance. On parla même de livres nouveaux. « Avez-vous vu, dit l'abbé Périgourdin, le roman du sieur Gauchat, docteur en théologie ?»«
Oui, répondit un des convives, mais je n'ai pu l'achever. Nous avons une foule d'écrits impertinents, mais tous ensemble n'approchent pas de l'impertinence de Gauchat, docteur en théologie. Je suis si rassasié de cette immensité de détestables livres qui nous inondent que je me suis mis à ponter au pharaon.
Et les mélanges de l'archidiacre Publé, qu'en dites-vous? Dit l'abbé.
Ah! Dit madame de Parolignac, l'ennuyeux mortel!
Comme il vous dit curieusement ce que tout le monde sait, comme il discute pesamment ce qui ne vaut pas la peine d'être remarqué légèrement, comme il s'approprie sans esprit l'esprit des autres, comme il gâte ce qu'il pille, comme il me dégoûte. Mais il ne me dégoûtera plus, c'est assez d'avoir lu quelques pages de l'archidiacre.
Il y avait à table un homme savant et de goût qui appuya ce que disait la marquise. On parla ensuite de tragédie,
La dame demanda pourquoi il y avait des tragédies qu'on jouait quelquefois et qu'on ne pouvait lire. L'homme de goût expliqua très bien comment une pièce pouvait avoir quelque intérêt et n'avoir presque aucun mérite. Il prouva en peu de mots que ce n'était pas assez d'amener une ou deux de ces situations qu'on trouve dans tous les romans et qui séduisent toujours les spectateurs, mais qu'il faut être neuf sans être bizarre, souvent sublime et toujours naturel, connaître le cœur humain et le faire parler, être grand poète sans que jamais aucun personnage de la pièce paraisse poète, savoir parfaitement sa langue, la parler avec pureté, avec une harmonie continue, sans que jamais la rime coûte rien au sens. Quiconque, ajouta-t-il, n'observe pas toutes ces règles, peut faire une ou deux tragédies applaudies au théâtre, mais il ne sera jamais compté au rang des bons écrivains. Il y a très peu de bonnes tragédies. Les unes sont des idylles en dialogue bien écrits et bien rimés, les autres des raisonnements politiques qui endorment, ou des amplifications qui rebutent, les autres des rêves d'énergumène en style barbare, des propos interrompus, de longues apostrophes odieux parce qu'on ne sait point parler aux hommes, des maximes fausses, des lieux communs ampoulés. Candide écouta ce propos avec attention et conçut une grande idée du discoureur. Et comme la marquise avait eu soin de le placer à côté d'elle, il s'approcha de son oreille et prit la liberté de lui demander qui était cet homme qui parlait si bien. « C'est un savant, dit la dame, qui ne ponte point et que l'abbé m'amène quelquefois à souper. Il se connaît parfaitement en tragédie et en livre, et il a fait une tragédie sifflée et un livre dont on n'a jamais vu hors de la boutique de son libraire qu'un exemplaire qu'il m'a dédié. « Le grand homme, dit Candide, c'est un autre Pangloss. » Alors, se tournant vers lui, il lui dit, « Monsieur, vous pensez sans doute que tout est au mieux dans le monde physique et dans le moral, et que rien ne pouvait être autrement. « Moi, monsieur, lui répondit le savant, je ne pense rien de tout cela. Je trouve que tout va de travers chez nous, que personne ne sait ni quel est son rang, ni quelle est sa charge, ni ce qu'il fait, ni ce qu'il doit faire, et qu'excepté le souper qui est assez gai, où il paraît assez d'union, tout le reste du temps se passe en querelles impertinentes. Janséniste contre moliniste, gens du Parlement contre gens d'Église, gens de lettres contre gens de lettres, courtisans contre courtisans, financiers contre le peuple, femmes contre mari, parents contre parents. C'est une guerre éternelle. Candide lui répliqua, « J'ai vu pis, mais un sage qui depuis a eu le malheur d'être pendu m'apprit que tout cela est à merveille. Ce sont des ombres à un beau tableau. » « Votre pendu se moquait du monde, dit Martin. Vos ombres sont des taches horribles. » « Ce sont les hommes qui font les taches, dit Candide, et ils ne peuvent pas s'en dispenser. » « Ce n'est donc pas leur faute, dit Martin. » La plupart des pontes, qui n'entendaient rien à ce langage, buvaient. Et Martin raisonna avec le savant, et Candide raconta une partie de ses aventures à la dame du logis. Après souper, la marquise mena Candide dans son cabinet et le fit asseoir sur un canapé. « Eh bien, lui dit-elle, vous aimez donc toujours éperdument mademoiselle Cunégonde de Thundertenbronck ?»« « Oui, madame, répondit Candide. » La marquise lui répliqua avec un sourire tendre, « Vous me répondez comme un jeune homme de Westphalie. Un Français m'aurait dit, « Il est vrai que j'ai aimé mademoiselle Cunégonde, mais en vous voyant, madame, je crains de ne la plus aimer. » « Hélas, madame, dit Candide, je répondrai comme vous voudrez. » Votre passion pour elle, dit la marquise, a commencé en ramassant son mouchoir. Je veux que vous ramassiez ma jarretière. De tout mon cœur, dit Candide, et il la ramassa. Mais je veux que vous me la remettiez, dit la dame. Et Candide la lui remit. Voyez-vous, dit la dame, vous êtes étranger. Je fais quelquefois languir mes amants de Paris 15 jours, mais je me rends à vous dès la première nuit.
parce qu'il faut faire les honneurs de son pays à un jeune homme de Spalin. » La belle ayant aperçu deux énormes diamants aux deux mains de son jeune étranger, les loua de si bonne foi que des doigts de Candide ils passèrent aux doigts de la marquise. Candide, en s'en retournant avec son abbé Périgourdin, sentit quelque remords d'avoir fait une infidélité à mademoiselle Cunégonde. Monsieur l'abbé entra dans sa peine. Il n'avait qu'une légère part aux 50 000 livres perdues au jeu par Candide, et à la valeur des deux brillants moitié donnés, moitié storqués. Son dessein était de profiter autant qu'il le pourrait des avantages que la connaissance de Candide pouvait lui procurer. Il lui parla beaucoup de Cunégonde, et Candide lui dit qu'il demanderait bien pardon à cette belle de son infidélité quand il la verrait à Venise. Le Périgourdin redoublait de politesse et d'attention, et prenait un intérêt tendre à tout ce que Candide disait, à tout ce qu'il faisait, à tout ce qu'il voulait faire. « Vous avez donc, monsieur, lui dit-il, un rendez-vous à Venise. » « Oui, monsieur l'abbé, dit Candide, il faut absolument que j'aille trouver mademoiselle Cunégonde. » Alors, engagé par le plaisir de parler de ce qu'il aimait, il conta, selon son usage, une partie de ses aventures avec cette illustre westphalienne. Je crois, dit l'abbé, que mademoiselle Cunégonde a bien de l'esprit et qu'elle écrit des lettres charmantes. « Je n'en ai jamais reçu, dit Candide. Car figurez-vous qu'ayant été chassé du château pour l'amour d'elle, je ne pus lui écrire, que bientôt après j'appris qu'elle était morte, qu'ensuite je la retrouvai, et que je la perdis, et que je lui envoyai à 2 500 lieues d'ici un express dont j'attends la réponse. » L'abbé écoutait attentivement et paraissait un peu rêveur. Il prit bientôt congé des deux étrangers après les avoir tendrement embrassés. Le lendemain, Candide reçut, à son réveil, une lettre conçue en ces termes. « Monsieur, mon cher amant, il y a 8 jours que je suis malade dans cette ville. J'apprends que vous y êtes. Je volerais dans vos bras si je pouvais remuer. J'ai su votre passage à Bordeaux, qui a laissé le fidèle Cacambo et la vieille qui doivent bientôt me suivre. Le gouverneur de Buenos Aires a tout pris, mais il me reste votre cœur. « Venez, votre présence me rendra la vie ou me fera mourir de plaisir. » Cette lettre charmante, cette lettre inespérée, transporta Candide d'une joie inexprimable, et la maladie de sa chère Cunégonde l'accabla de douleur. Partagé entre ces deux sentiments, il prend son or et ses diamants et se fait conduire avec Martin à l'hôtel où mademoiselle Cunégonde demeurait. Il entre en tremblant d'émotion. Son cœur palpite, sa voix sanglote. Il veut ouvrir les rideaux du lit, il veut faire apporter de la lumière. « Gardez-vous-en bien, dit la suivante, la lumière la tue. » Et soudain, elle referme le rideau. « Ma chère Cunégonde, dit Candide en pleurant, comment vous portez-vous? Si vous ne pouvez me voir, parlez-moi du moins. » « Elle ne peut parler, dit la suivante. » La dame alors tire du lit une main potelée que Candide arrose longtemps de ses larmes et qu'il remplit ensuite de diamants en laissant un sac plein d'or sur le fauteuil. Au milieu de ces transports arrive un exempt suivi de l'abbé Périgourdin et d'une escouade. « Voilà donc, dit-il, ces deux étrangers suspects. » Il les fait incontinent saisir et ordonne à ses braves de les traîner en prison. « Ce n'est pas ainsi qu'on traite les voyageurs dans Eldorado, » dit Candide. « Je suis plus manichéen que jamais, » dit Martin. « Mais monsieur, où nous menez-vous ? » dit Candide. « Dans un cul de basse-fosse, » dit l'exempt. Martin, ayant repris son sang-froid, jugea que la dame qui se prétendait Cunégonde était une friponne. Monsieur l'abbé Périgourdin, un fripon qui avait abusé au plus vite de l'innocence de Candide, et l'exempt un autre fripon dont on pouvait aisément se débarrasser. Plutôt que de s'exposer aux procédures de la justice, Candide, éclairé par son conseil, et d'ailleurs toujours impatient de revoir la véritable Cunégonde,
propose à l'exempt 3 petits diamants d'environ 3 000 pistoles chacun.
« Ah, monsieur, dit l'homme au bâton d'ivoire, eussiez-vous commis tous les crimes imaginables, vous êtes le plus honnête homme du monde. »
3 diamants, chacun de 3 000 pistoles. Monsieur, je me ferai tuer pour vous, au lieu de vous mener dans un cachot.
On arrête tous les étrangers, mais laissez-moi faire. J'ai un frère à Dieppe en Normandie, je vais vous y mener. Et si vous avez quelques diamants à lui donner, il aura soin de vous, comme moi-même.
Et pourquoi arrête-t-on tous les étrangers? Dit Candide.
L'abbé Périgourdin prit alors la parole et dit « C'est parce qu'un gueux du pays d'Atrébatie a entendu dire des sottises. Cela seul lui a fait commettre un parricide, non pas tel que celui de 1610 au mois de mai, mais tel que celui de 1594 au mois de décembre, et tel que plusieurs autres commis dans d'autres années et dans d'autres mois par d'autres gueux qui avaient entendu dire des sottises. »
L'exempt alors expliqua de quoi il s'agissait.
« Ah, les monstres !» s'écria Candide. « Quoi, de telles horreurs chez un peuple qui danse et qui chante?
Ne pourrais-je sortir au plus vite de ce pays où des singes agacent des tigres? J'ai vu des ours dans mon pays. Je n'ai vu des hommes que dans le Dorado. Au nom de Dieu, monsieur l'exempt, menez-moi à Venise où je dois attendre mademoiselle Cunégonde.
Je ne peux vous mener qu'en basse Normandie, dit le Barigel. Aussitôt il lui fait ôter ses fers, dit qu'il s'est mépris, renvoie ses gens, emmène à Dieppe Candide et Martin et les laisse entre les mains de son frère. Il y avait un petit vaisseau hollandais à la rade. Le Normand, à l'aide de 3 autres diamants, devenu le plus serviable des hommes, embarque Candide et ses gens dans le vaisseau qui allait faire voile pour Portsmouth en Angleterre. Ce n'était pas le chemin de Venise, mais Candide croyait être délivré de l'enfer, et il comptait bien reprendre la route de Venise à la première occasion.
Chapitre 23. Candide et Martin vont sur les côtes d'Angleterre, ce qu'ils y voient.
Ah, Pangloss, Pangloss! Ah, Martin, Martin! Ah, ma chère Cunégonde, qu'est-ce que ce monde-ci? Disait Candide sur le vaisseau hollandais.
Quelque chose de bien fou et de bien abominable, répondait Martin.
Vous connaissez l'Angleterre, y est-on aussi fou qu'en France?
C'est une autre espèce de folie, dit Martin. Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada, et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut. De vous dire précisément s'il y a plus de gens alliés dans un pays que dans un autre, c'est ce que mes faibles lumières ne me permettent pas. Je sais seulement qu'en général les gens que nous allons voir sont fort atrabilaires. En causant ainsi, ils abordèrent à Portsmouth. Une multitude de peuples couvrait le rivage et regardait attentivement un assez gros homme qui était à genoux, les yeux bandés sur le tillac d'un des vaisseaux de la flotte. 4 soldats, postés vis-à-vis de cet homme, lui tirèrent chacun 3 balles dans le crâne, le plus paisiblement du monde. Et toute l'assemblée s'en retourna extrêmement satisfaite.
Qu'est-ce donc que tout ceci, dit Candide, et quel démon exerce partout son empire?
Il demanda qui était ce gros homme qu'on venait de tuer en cérémonie.
C'est un amiral, lui répondit-on.
Et pourquoi tuer cet amiral?
C'est, lui dit-on, parce qu'il n'a pas fait tuer assez de monde. Il a livré un combat à un amiral français, et on a trouvé qu'il n'était pas assez près de lui.
Mais, dit Candide, l'amiral français était aussi loin de l'amiral anglais que celui-ci l'était de l'autre.
Cela est incontestable, lui répliqua-t-on.
Mais dans ce pays-ci, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres.
Candide fut si étourdi et si choqué de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait qu'il ne voulut pas seulement mettre pied à terre, et qu'il fit son marché avec le patron hollandais,
dut-il le voler comme celui de Suriname pour le conduire sans délai à Venise. Le patron fut prêt au bout de 2 jours. On côtoya la France, on passa à la vue de Lisbonne et Candide frémit. On entra dans le détroit et dans la Méditerranée. Enfin, on aborda à Venise.
Dieu soit loué, dit Candide en embrassant Martin. C'est ici que je reverrai la belle Cunégonde. Je compte sur Cacambo comme sur moi-même. Tout est bien, tout va le mieux qu'il soit possible.
Chapitre 24. De Paquette et de Frère Giroflée.
Dès qu'il fut à Venise, il fit chercher Cacambo dans tous les cabarets, dans tous les cafés, chez toutes les filles de joie, et ne le trouva point. Il envoyait tous les jours à la découverte de tous les vaisseaux et de toutes les barques. Nulle nouvelle de Cacambo.
Quoi, disait-il à Martin, j'ai eu le temps de passer de Suriname à Bordeaux, d'aller de Bordeaux à Paris, de Paris à Dieppe, de Dieppe à Portsmouth, de côtoyer le Portugal et l'Espagne, de traverser toute la Méditerranée, de passer quelques mois à Venise, et la belle Cunégonde n'est point venue. Je n'ai rencontré au lieu d'elle qu'une drôlesse et un abbé périgourdin.
Cunégonde est morte sans doute, je n'ai plus qu'à mourir.
Ah, il valait mieux rester dans le paradis du Dorado que de revenir dans cette maudite Europe.
Que vous avez raison, mon cher Martin. Tout n'est qu'illusion et calamité. Il tomba dans une mélancolie noire et ne prit aucune part à l'opéra, à la moda, ni aux autres divertissements du carnaval. Pas une dame ne lui donna la moindre tentation.
Martin lui dit, « Vous êtes bien simple en vérité de vous figurer qu'un valet métis qui a 5 ou 6 millions dans ses poches ira chercher votre maîtresse au bout du monde et vous l'amènera à Venise. Il la prendra pour lui s'il la trouve. S'il ne la trouve pas, il en prendra une autre.
Je vous conseille d'oublier votre valet Cacambo et votre maîtresse Cunégonde. »
Martin n'était pas consolant.
La mélancolie de Candide augmenta, et Martin ne cessait de lui prouver qu'il y avait peu de vertu et peu de bonheur sur la terre, excepté peut-être dans Eldorado où personne ne pouvait aller. En disputant sur cette matière importante et en attendant Cunégonde, Candide aperçut un jeune théatin dans la place Saint-Marc qui tenait sous le bras une fille. Le théatin paraissait frais, potelé, vigoureux, ses yeux étaient brillants, son air assuré, sa mine haute, sa démarche fière.
La fille était très jolie et chantée, elle regardait amoureusement son théatin et de temps en temps lui pinçait ses grosses joues.
« Vous m'avouerez du moins, dit Candide à Martin, que ces gens-ci sont heureux. Je n'ai trouvé jusqu'à présent dans toute la terre habitable, excepté dans Eldorado, que des infortunés. Mais pour cette fille et ce théatin, je gage que ce sont des créatures très heureuses.
Je gage que non, dit Martin.
Il n'y a qu'à les prier à dîner, dit Candide, et vous verrez si je me trompe. Aussitôt il les aborde, il leur fait son compliment et les invite à venir à son hôtellerie manger des macaronis, des perdrix de Lombardie, des œufs d'esturgeon, et à boire du vin de Montepulciano, du Lacrima Christi, du Chypre et du Samos. La demoiselle rougit, le théatin accepta la partie, et la fille le suivit en regardant Candide avec des yeux de surprise et de confusion qui furent obscurcis de quelques larmes. À peine fut-elle entrée dans la chambre de Candide qu'elle lui dit
« Et quoi, monsieur Candide, ne reconnaît plus Paquette ?»
À ces mots, Candide, qui ne l'avait pas considéré jusque-là avec attention parce qu'il n'était occupé que de Cunégonde, lui dit « Hélas, ma pauvre enfant, c'est donc vous qui avez mis le docteur Pangloss dans le bel état où je l'ai vu ?»«
Hélas, monsieur, c'est moi-même, dit Paquette. Je vois que vous êtes instruit de tout.
J'ai su les malheurs épouvantables arrivés à toute la maison de Madame la Baronne et à la belle Cunégonde. Je vous jure que ma destinée n'a guère été moins triste. J'étais fort innocente quand vous m'avez vue. Un cordelier qui était mon confesseur me séduisit aisément. Les suites en furent affreuses. Je fus obligé de sortir du château quelque temps après que M. le baron vous eût renvoyé à grands coups de pied dans le derrière. Si un fameux médecin n'avait pas pris pitié de moi, j'étais morte. Je fus quelque temps, par reconnaissance, la maîtresse de ce médecin. Sa femme, qui était jalouse à la rage, me battait tous les jours impitoyablement. C'était une furie. Ce médecin était le plus laid de tous les hommes, et moi la plus malheureuse de toutes les créatures, d'être battue continuellement pour un homme que je n'aimais pas. Vous savez, monsieur, combien il est dangereux pour une femme acariâtre d'être l'épouse d'un médecin. Celui-ci, outré des procédés de sa femme, lui donna un jour, pour la guérir d'un petit rhume, une médecine si efficace qu'elle en mourut en 2 heures de temps dans des convulsions horribles. Les parents de madame intentèrent à monsieur un procès criminel. Il prit la fuite, et moi je fus mis en prison. Mon innocence ne m'aurait pas sauvé si je n'avais été un peu jolie. Le juge m'élargit, à condition qu'il succéderait au médecin. Je fus bientôt supplanté par une rivale, chassé sans récompense, et obligé de continuer ce métier abominable qui vous paraît si plaisant à vous autres hommes, et qui n'est pour nous qu'un abîme de misère. J'allais exercer la profession à Venise. Ah, monsieur, si vous pouviez vous imaginer ce que c'est que d'être obligé de caresser indifféremment un vieux marchand, un avocat, un moine, un gondolier, un abbé, d'être exposé à toutes les insultes, à toutes les avanies, d'être souvent réduite à emprunter une jupe pour aller se la faire lever par un homme dégoûtant, d'être volée par l'un de ceux qu'on a gagnés avec l'autre, d'être rançonnée par les officiers de justice, et de n'avoir en perspective qu'une vieillesse affreuse, un hôpital et un fumier. Vous concluriez que je suis une des plus malheureuses créatures du monde. Paquette ouvrait ainsi son cœur au bon Candide dans un cabinet en présence de Martin, qui disait à Candide « Vous voyez que j'ai déjà gagné la moitié de la gageure. » Frère Giroflée était resté dans la salle à manger et buvait un coup en attendant le dîner. « Mais, dit Candide à Paquette, vous aviez l'air si gai, si content quand je vous ai rencontré. Vous chantiez, vous caressiez le théatin avec une complaisance naturelle. Vous m'avez paru aussi heureuse que vous prétendez être infortunée. » « Ah, monsieur, répondit Paquette, c'est encore là une des misères du métier. J'ai été hier volé et battu par un officier, et il faut aujourd'hui que je paraisse de bonne humeur pour plaire à un moine. » Candide n'en voulut pas davantage. Il avoua que Martin avait raison. On se mit à table avec Paquette et le théatin. Le repas fut assez amusant. Et sur la fin, on se parla avec quelque confiance. « Mon père, dit Candide au moine, vous me paraissez jouir d'une destinée que tout le monde doit envier. La fleur de la santé brille sur votre visage, votre physionomie annonce le bonheur, vous avez une très jolie fille pour votre récréation, et vous paraissez très content de votre état de théatin. Ma foi, monsieur, dit frère Giroflée, je voudrais que tous les théatins fussent au fond de la mer. J'ai été tenté 100 fois de mettre le feu au couvent et d'aller me faire turc. Mes parents me forcèrent à l'âge de 15 ans d'endosser cette détestable robe pour laisser plus de fortune à un maudit frère aîné que Dieu confonde. La jalousie, la discorde, la rage habitent dans le couvent. Il est vrai que j'ai prêché quelques mauvais sermons qui m'ont valu un peu d'argent, dont le prieur me vole la moitié. Le reste me sert à entretenir des filles. Mais quand je rentre le soir dans le monastère,
Je suis prêt à me casser la tête contre les murs du dortoir. Et tous mes confrères sont dans le même cas. »
Martin, se tournant vers Candide avec son sang-froid ordinaire,
« Eh bien, lui dit-il, n'ai-je pas gagné la gageure tout entière ?» Candide donna 2000 piastres à Paquette et 1000 piastres à frère Giroflée.
« Je vous réponds, dit-il, qu'avec cela, ils seront heureux. »«
Je n'en crois rien du tout, dit Martin.
Vous les rendrez peut-être avec ces piastres beaucoup plus malheureux encore. »
« Il en sera ce qui pourra, dit Candide.
Mais une chose me console, je vois qu'on retrouve souvent les gens qu'on ne croyait jamais retrouver. Il se pourra bien faire qu'ayant rencontré mon mouton et Paquette, je rencontre aussi Cunégonde.
Je souhaite, dit Martin, qu'elle fasse un jour votre bonheur, mais c'est de quoi je doute fort.
Vous êtes bien dur, dit Candide.
C'est que j'ai vécu, dit Martin.
Mais regardez ces gondoliers, dit Candide, ne chantent-ils pas sans cesse?
Vous ne les voyez pas dans leur ménage, avec leurs femmes et leurs marmots d'enfants, dit Martin.
Le doge a ses chagrins, les gondoliers ont les leurs.
Il est vrai qu'à tout prendre, le sort d'un gondolier est préférable à celui d'un doge.
Mais je crois la différence si médiocre que cela ne vaut pas la peine d'être examiné.
On parle, dit Candide, du sénateur Pococurante, qui demeure dans ce beau palais sur la Brenta et qui reçoit assez bien les étrangers.
On prétend que c'est un homme qui n'a jamais eu de chagrin.
Je voudrais voir une espèce si rare, dit Martin.
Candide aussitôt fit demander au seigneur Pococurante la permission de venir le voir le lendemain.
Chapitre 25. Visite chez le seigneur Pococurante, noble vénitien. Candide et Martin allèrent en gondole sur la Brenta et arrivèrent au palais du noble Pococurante. Les jardins étaient bien entendus et ornés de belles statues de marbre, le palais d'une belle architecture. Le maître du logis, homme de 60 ans, fort riche, reçut très poliment les deux curieux, mais avec très peu d'empressement, ce qui déconcerta Candide et ne déplut point à Martin. D'abord deux filles, jolies et proprement mises, servirent du chocolat qu'elles firent très bien mousser. Candide ne put s'empêcher de les louer sur leur beauté, sur leur bonne grâce et sur leur adresse. « Ce sont d'assez bonnes créatures, » dit le sénateur Pococurante. Je les fais quelquefois coucher dans mon lit, car je suis bien là des dames de la ville, de leur coquetterie, de leur jalousie, de leur querelle, de leur humeur, de leur petitesse, de leur orgueil, de leur sottise, et des sonnets qu'il faut faire ou commander pour elles. Mais après tout, ces deux filles commencent fort à m'ennuyer. Candide, après le déjeuner, se promenant dans une longue galerie, fut surpris de la beauté des tableaux. Il demanda de quel maître étaient les deux premiers. « Ils sont de Raphaël, dit le sénateur. Je les achetais fort cher par vanité il y a quelques années. On dit que c'est ce qu'il y a de plus beau en Italie, mais ils ne me plaisent point du tout. La couleur en est très rembrunie, les figures ne sont pas assez arrondies. » Et ne sortent point assez. Les draperies ne ressemblent en rien à une étoffe. En un mot, quoi qu'on en dise, je ne trouve point là une imitation vraie de la nature. Je n'aimerais un tableau que quand je croirais voir la nature elle-même. Il n'y en a point de cette espèce. J'ai beaucoup de tableaux, mais je ne les regarde plus. Pococurante, en attendant le dîner, se fit donner un concerto. Candide trouva la musique délicieuse. « Ce bruit, dit Pococurante, peut amuser une demi-heure, mais s'il dure plus longtemps, il fatigue tout le monde, quoique personne n'ose l'avouer. La musique aujourd'hui n'est plus que l'art d'exécuter des choses difficiles, et ce qui n'est que difficile ne plaît point à la longue.
J'aimerais peut-être mieux l'opéra si l'on n'avait pas trouvé le secret d'en faire un monstre qui me révolte. Ira voir qui voudra de mauvaises tragédies en musique, où les scènes ne sont faites que pour amener très mal à propos deux ou trois chansons ridicules qui font valoir le gosier d'une actrice. Se pâmera de plaisir qui voudra ou qui pourra, en voyant un châtré fredonner le rôle de César et de Caton, et se promener d'un air gauche sur les planches. Pour moi, il y a longtemps que j'ai renoncé à ces pauvretés qui font aujourd'hui la gloire de l'Italie et que des souverains paient si chèrement. Candide disputa un peu, mais avec discrétion. Martin fut entièrement de l'avis du sénateur. On se mit à table et après un excellent dîner, on entra dans la bibliothèque. Candide, en voyant un Homère magnifiquement relié, loua l'illustrissime pour son bon goût. « Voilà, dit-il, un livre qui faisait les délices du grand Pangloss, le meilleur philosophe de l'Allemagne. »«
Il ne fait pas les miennes, » dit froidement Pococurante.
« On me fit à croire autrefois que j'avais du plaisir en le lisant. Mais cette répétition continuelle de combats qui se ressemblent tous, ces dieux qui agissent toujours pour ne rien faire de décisif, c'est Hélène qui est le sujet de la guerre et qui à peine est une actrice de la pièce, cette Troie qu'on assiège et qu'on ne prend point, tout cela me causait le plus mortel ennui. J'ai demandé quelquefois à des savants s'ils s'ennuyaient autant que moi à cette lecture. Tous les gens sincères m'ont avoué que le livre leur tombait des mains et qu'il fallait toujours l'avoir dans sa bibliothèque comme un monument de l'Antiquité. Et comme ces médailles rouillées qui ne peuvent être de commerce.
Votre Excellence ne pense pas ainsi de Virgile, dit Candide.
Je conviens, dit Pococurante, que le second, le quatrième et le sixième livre de son Énéide sont excellents. Mais pour son pieux aîné et le fort Cloante, et l'ami Acate et le petit Ascanius, et l'imbécile roi Latinus, et la bourgeoise Amata et l'insipide Lavinia, je ne crois pas qu'il y ait rien de si froid et de plus désagréable. J'aime mieux le Tasse et les Contes à dormir debout de l'Arioste.
Oserais-je vous demander, monsieur, dit Candide, si vous n'avez pas un grand plaisir à lire Horace?
Il y a des maximes, dit Pococurante, dont un homme du monde peut faire son profit, et qui, étant resserré dans des vers énergiques, se grave plus aisément dans la mémoire. Mais je me soucie fort peu de son voyage à Brinde, et de sa description d'un mauvais dîner, et de la querelle de Crocheteur entre je ne sais quel Pupillus, dont les paroles, dit-il, étaient pleines de pus, et un autre dont les paroles étaient du vinaigre.
Je n'ai lu qu'avec un extrême dégoût ces vers grossiers contre des vieilles et contre des sorcières, et je ne vois pas quel mérite il peut y avoir à dire à son ami Mécénas que s'il est mis par lui au rang des poètes lyriques, il frappera les astres de son front sublime. Les sots admirent tout dans un auteur estimé. Je ne lis que pour moi, je n'aime que ce qui est à mon usage.
Candide, qui avait été élevé à ne jamais juger de rien par lui-même, était fort étonné de ce qu'il entendait, et Martin trouvait la façon de penser de Pococurante assez raisonnable.
Oh, voici un Cicéron, dit Candide. Pour ce grand homme-là, je pense que vous ne vous lassez point de le lire.
Je ne le lis jamais, répondit le Vénitien. Que m'importe qu'il ait plaidé pour Abirius ou pour Cluantius. J'ai bien assez des procès que je juge. Je me serais mieux accommodé de ses œuvres philosophiques, mais quand j'ai vu qu'il doutait de tout, j'ai conclu que j'en savais autant que lui, et que je n'avais besoin de personne pour être ignorant.
Ah, voilà 80 volumes de recueil d'une académie des sciences, s'écria Martin. Il se peut qu'il y ait là du bon.
Il y en aurait, dit Pococurante, si un seul des auteurs de ces fatras avait inventé seulement l'art de faire des épingles. Mais il n'y a dans tous ces livres que de 20 systèmes, et pas une seule chose utile.
Que de pièces de théâtre je vois là, dit Candide. En italien,
En espagnol ? En français ?
Oui, dit le sénateur, il y en a 3000, et pas 3 douzaines de bonnes.
Pour ces recueils de sermons, qui tous ensemble ne valent pas une page de Sénèque, et tous ces gros volumes de théologie, vous pensez bien que je ne les ouvre jamais, ni moi, ni personne.
Martin aperçut des rayons chargés de livres anglais.
Je crois, dit-il, qu'un républicain doit se plaire à la plupart de ses ouvrages écrits si librement.
Oui, répondit Pococurante, il est beau d'écrire ce qu'on pense. C'est le privilège de l'homme. Dans toute notre Italie, on n'écrit que ce qu'on ne pense pas. Ceux qui habitent la patrie des Césars et des Antonins n'osent avoir une idée sans la permission d'un Jacobin.
Je serai content de la liberté qui inspire les génies anglais si la passion et l'esprit de parti ne corrompaient pas tout ce que cette précieuse liberté a d'estimable.
Candide, apercevant un Milton, lui demanda s'il ne regardait pas cet auteur comme un grand homme.
« Qui ?» dit Pococurante. « Ce barbare fait un long commentaire du premier chapitre de la Genèse en 10 livres de verdure. Ce grossier imitateur des Grecs qui défigure la création, et qui, tandis que Moïse représente l'être éternel produisant le monde par la parole, fait pendre un grand compas par le Messia dans une armoire du ciel pour tracer son ouvrage.
Moi j'estimerais celui qui a gâté l'enfer et le diable du Tasse, qui déguise Lucifer tantôt en crapaud, tantôt en pygmée, qui lui fait rebattre 100 fois les mêmes discours, qui le fait disputer sur la théologie, qui, en imitant sérieusement l'invention comique des armes à feu de l'Arioste, fait tirer le canon dans le ciel par les diables.
Ni moi ni personne en Italie n'a pu se plaire à toutes ces tristes extravagances.
Le mariage du péché et de la mort et les couleuvres dont le péché accouche font mire tout homme qui a le goût un peu délicat. Et sa longue description d'un hôpital n'est bonne que pour un fossoyeur. Ce poème obscur, bizarre et dégoûtant fut méprisé à sa naissance. Je le traite aujourd'hui comme il fut traité dans sa patrie par les contemporains. Au reste, je dis ce que je pense et je me soucie fort peu que les autres pensent comme moi.
Candide était affligé de ces discours. Il respectait Homère. Il aimait un peu Milton.
Hélas, dit-il tout bas à Martin, j'ai bien peur que cet homme-ci n'ait un souverain mépris pour nos poètes allemands.
Il n'y aurait pas grand mal à cela, dit Martin.
Oh, quel homme supérieur, disait encore Candide entre ses dents. Quel grand génie que ce Pococurante, rien ne peut lui plaire.
Après avoir fait ainsi la revue de tous les livres, ils descendirent dans le jardin. Candide en loua toutes les beautés.
« Je ne sais rien de si mauvais goût, dit le maître. Nous n'avons ici que des colifichets, mais je vais dès demain en faire planter un d'un dessin plus noble. »
Quand le curieux eurent pris congé de son excellence, « Or ça, dit Candide à Martin, vous conviendrez que voilà le plus heureux de tous les hommes, car il est au-dessus de tout ce qu'il possède.
Ne voyez-vous pas, dit Martin, qu'il est dégoûté de tout ce qu'il possède? Platon a dit il y a longtemps que les meilleurs estomacs ne sont pas ceux qui rebutent tous les aliments.
Mais, dit Candide, n'y a-t-il pas du plaisir à tout critiquer, à sentir des défauts où les autres hommes croient voir des beautés?
C'est-à-dire, reprit Martin, qu'il y a du plaisir à n'avoir pas de plaisir.
Oh bien, dit Candide, il n'y a donc d'heureux que moi quand je reverrai Mademoiselle Cunégonde.
C'est toujours bien fait d'espérer, dit Martin.
Cependant, les jours, les semaines s'écoulaient, Cacambo ne revenait point. Et Candide était si abîmé dans sa douleur, il ne fit pas même réflexion que Paquette et frère Giroflée n'étaient pas venus seulement le remercier.